Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bosuma.
Crise humanitaire dans l'Est de la RDC. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme salue l'étroite collaboration avec le gouvernement congolais pour mettre fin à cette crise. Volker Turk l'a déclaré à l'issue de l'audience lui accordée hier par la première ministre Judith Suminwa à Kinshasa. Dans l'actualité aussi, ce bilan officiel de l'éboulement de terre survenu samedi dernier vers la rivière Kasaï à Dibaya-Loubwe. Le gouvernement provincial du Kwilu parle de 12 corps sans vie retrouvés et remis aux familles des victimes et l'embarcation qui avait coulé est récupérée. Et puis cette plainte de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption et l'Observatoire de la dette publique. La LICOCO et l'ODEP demandent des explications sur le contrat que le ministère du Développement Rural a signé en mai 2022 pour l'installation de 1000 stations d'eau et des lampadaires dans plusieurs localités de la RDC. Cependant, le taux de réalisation est jugé très faible. Madame, Messieurs, bonjour. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme dit se réjouir d'asseoir une collaboration étroite avec le gouvernement congolais pour mettre fin à la crise humanitaire dans l'Est de la RDC. On va continuer à faire le plaidoyer sur les droits humains, surtout du point de vue des personnes affectées, pour qu'on trouve une solution à cela, a déclaré Volker Turk au sortir de l'audience que la première ministre lui a accordée hier au terme de sa visite en RDC. On écoute le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au micro de Jeff Ngoy.
Je me réjouis à l'idée d'avoir une collaboration étroite entre mon bureau, les Nations Unies et avec la Première ministre et son cabinet. C'est clair que la situation humanitaire, surtout dans l'Est, est précaire à cause de l'insécurité, à cause de ces vagues de déplacements, à cause de la violence et des conflits. Et c'est crucial que l'administration et les Nations Unies continuent à avoir une collaboration étroite pour faire face à ces défis humanitaires. Et autres. Alors, on s'est mis d'accord qu'on va collaborer étroitement. Alors, c'est clair que ce qui se passe dans l'Est, c'est quelque chose qui doit attirer l'attention internationale. Et on va continuer à faire le plaidoyer.
Par ailleurs, notez qu'hier, au siège de la MONUSCO à Kinshasa, le haut-commissaire Volker Turk a rencontré notamment les délégations de l'opposition politique, la MUCA, Ensemble et FCC. Au menu de leurs échanges, la situation des droits de l'homme en RDC. Entre-temps, une forte délégation de 16 États membres de l'ONU, dont 11 ambassadeurs, et la délégation de l'Union européenne séjourne à Goma depuis hier. Elle est conduite par Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint en RDC et coordonnateur des opérations humanitaires. À son arrivée, la délégation a échangé avec le gouverneur du Nord Kivu en son cabinet de travail. La délégation dit venir faire le focus sur la situation humanitaire en province, évaluer les besoins afin de faire le plaidoyer pour un appui financier pour une assistance humanitaire et un appui en solutions durables. On écoute Bruno Lemarquis au micro de la presse du gouvernorat du Nord Kivu.
Le focus de la mission, c'est vraiment sur la situation humanitaire, mais bien sûr, tout ça, ça a des liens avec la situation sécuritaire. Donc, c'est une mission de deux jours. Nous avons rencontré les autorités provinciales, nous allons rencontrer tous les partenaires humanitaires et ensuite demain nous irons visiter certains des déplacés pour que nous puissions échanger avec eux sur la situation très dramatique qui est en train de se passer dans la province du Nord Kivu, voir des besoins humanitaires, de la réponse humanitaire et de faire vraiment le plaidoyer, un plaidoyer que nous espérons remontera au niveau des capitales de tous ces États membres pour non seulement un plus fort appui à la situation humanitaire en termes de financement, parce que les besoins sont énormes, mais aussi pour appuyer des solutions, surtout politiques. Voilà. Donc c'est vraiment une mission importante pour mettre un peu l'emphase sur la situation que vit le Nord Kivu. On dit souvent que la crise du Congo, qui dure depuis 30 ans, c'est une crise oubliée, c'est une crise négligée, par crise tolérée. Donc il y a beaucoup d'autres crises dans le monde, et pourtant ce qui se passe ici, c'est dramatique, notamment dans la province du Nord Kivu, puisque la crise du M23 entre maintenant dans sa troisième année. Il y a des gens qui ont déjà bougé 4 fois, 5 fois, et ils vivent dans des conditions vraiment dramatiques.
Restons au Nord Kivu, cette fois sur la ligne de front. La situation est restée tendue hier soir dans l'agglomération de Kibirizi, chefferie de Bwito, dans le territoire de Rutshuru. C'est après des violents combats qui ont opposé les rebelles du M23 à une coalition de 3 groupes armés locaux dans les environs. Selon nos sources dans la zone, les combattants locaux ont attaqué la position des rebelles à 5 heures locales dans le village Kabanda, périphérie nord de Kibirizi. Le M23 qui a été délogé de ce village et d'une partie de Kibirizi momentanément est revenu à la charge et a repris le contrôle du village. Nos sources parlent d'un civil qui a été blessé alors que les habitants de Kibirizi ayant fui ces combats retournaient progressivement hier soir vers leurs habitations. Nord Kivu toujours. 6 civils ont été tués mercredi dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des EDF à Kudukudu, un village situé à 20 km de Beniville. La société civile locale rapporte un déplacement de la population vers la commune rurale de Mangina. Le récit de Sadiq Aboubakar.
Le chef du village de Kudukudu, qui s'est lui aussi déplacé, rapporte que 6 corps des victimes, dont 2 femmes, sont jusque-là découverts. Des victimes qui ont été tuées à l'armée blanche. Rémi Baumilia affirme que plusieurs autres personnes ont été kidnappées, environ 10 maisons d'habitation incendiées et plusieurs biens emportés par les assaillants. Le président de la société civile de Mangina, Kakule Vunyati, appelle les forces conjointes FRDC UPDF à lancer des opérations offensives pour démanteler les ADF qui se seraient installés dans la région située entre la ville de Beni, la commune de Mangina et Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Nous n'avons pas la réaction du porte-parole des opérations conjointes des armées ougandaises et congolaises. Signalons que c'est la première fois que le village de Kudukudu est visé par une attaque des ADF. Cette entité est considérée comme l'un des greniers de Beni. On y produit entre autres l'huile des palmes et du manioc consommé dans la région. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, les leaders des différents groupes armés actifs sont retournés hier à Bunia après une réunion avec le chef de l'État à Kinshasa, réunion sur le processus de paix dans l'Est de la RDC. Ces chefs de milice se disent engagés dans la recherche d'une paix durable dans cette province. Ils ont également accepté de faire partie de la réserve armée de la défense, RAD en sigle. Reportage de Martial Kizabiamungu.
Tous 16 membres des groupes armés actifs de l'Ituri, FRPI, FPIC avec ceux des factions URDPC, Barco-Déco, Zaïre et l'autodéfense MAPI sont retournés à Bunia, accompagnés d'un officier de FRDC. Selon ses chefs des milices, oui, parmi eux, ainsi que les délégués des groupes armés du Nord et Sud Kivu, ont échangé le dimanche 14 avril avec le chef de l'État. Au cours de cette rencontre, le président de la République les a instruits de cesser les violences contre des civils et de s'impliquer pour la promotion de la paix et de la défense de l'intégrité du pays en devenant des réservistes de l'armée. En réaction, ils ont exprimé leur engagement à respecter les accords qu'ils ont signés pour la cessation définitive des conflits. Selon des sources sécuritaires, les leaders de ces groupes armés, avant de regagner leur bastion, vont échanger avec les vice-premiers ministres, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba, qui est attendu à Bunia cette semaine pour une mission officielle. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, on en sait un peu plus sur l'éboulement de terre survenu samedi dernier sur la rivière Kasai, commune rurale de Dibaya-Loubwe. Contrairement au bilan provisoire dressé précédemment par l'exécutif provincial, d'autres sources locales faisaient état d'une cinquantaine de disparus. Le gouvernement provincial du Kwilu affirme qu'au total, seuls 12 corps sans vie ont été retrouvés et remis aux familles des victimes après toutes les recherches et l'embarcation qui avait coulé récupérée. Le gouverneur intérimaire Félicien Kiwai indique qu'une délégation des 3 ministres est dépêchée sur place pour assister les familles des victimes. Il a dit à Irène Boma.
Par rapport à cet éboulement, nous avons d'abord dépêché notre représentant, qui est l'administrateur du territoire de Diofa. En fait, la première rumeur n'était pas fondée, celle de dire qu'il y a eu 50 environ de la population. Mais après toutes les démarches faites, on a retrouvé la coque et on a retrouvé 12 corps. Les familles ont récupéré les 12 corps en présence de l'administrateur du territoire. Et le gouvernement provincial aussi vient d'arriver. Le ministre de l'Intérieur, que j'ai mandaté Kangate, le ministre des Affaires foncières et le ministre du Transport, vient d'arriver à Dubaïdibo avec la contribution de la province pour assister ces familles éprouvées. Et maintenant, nous sommes allés pour aller encore au-delà, vérifier dans les villages environnants s'il y a des réclamations de pertes en vies humaines de quelqu'un disparu. L'administrateur du territoire, lui qui était sur place, c'est l'information fiable qu'il nous a donnée. Il a nié l'existence d'une cinquantaine déjà et il a confirmé les 12 corps retrouvés et la coque déjà broyée.
Autre nouvelle, la hausse des tarifs des transactions mobiles suscite des réactions des revendeurs et clients de plusieurs réseaux mobiles à Kinshasa. Il s'agit des frais de retrait d'argent qui ont doublé chez certains. Les revendeurs de leur côté disent ne pas bénéficier de cette hausse. Comment la situation se présente sur terrain? Greta Lulendo.
Les réclamations sont plus du côté des abonnés Vodacom qui se plaignent de perdre beaucoup plus d'argent que d'habitude.
Oui, je fais un transfert sur M-Pesa, Vodacom. Ça fait un bout de temps que les frais ne font qu'augmenter. Là, j'envoie 140$. Donc, il me dit là, je vais payer 1$ ou 140$.
Le frais d'envoi et le frais de retrait. Quand il va me le retirer, ça sera plus ou moins 3$.
Les revendeurs des réseaux de télécommunications reconnaissent cette hausse indépendante de leur volonté. Cela est à la base d'incompréhension avec certains clients.
Un client, s'il arrive dans mon shop pour faire les retraits. Mais s'il a juste 20$, il ne peut pas retirer 20$. Donc il va retirer au moins 18,5. Qu'on a fait augmenter les frais de retrait par le réseau. On retranchait 0,90 quelque chose. Mais aujourd'hui, s'il retire 19 ou bien 20, on va le retrancher à peu près 1,20 ou bien 1,10.
Ça vous pose un problème avec les clients?
Bon, on va le faire toujours expliquer que ce n'est pas nous, c'est Vodacom qui est à la base de tout cela. Les autres réseaux, Vodacom, Orange, mais Orange, ce n'est pas pour des frais là-bas. Airtel, pas tellement. C'est qui a augmenté vraiment le frais.
Nos efforts pour atteindre les responsables des réseaux des télécommunications n'ont pas abouti. Notons que ces transactions mobiles permettent l'envoi et le retrait d'argent à travers tout le pays.
Justice. La Cour constitutionnelle fixe au 22 juillet prochain la réouverture du procès de la débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Ce procès était initialement prévu au 28 mars dernier afin de permettre à l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo de mener sa campagne électorale en toute tranquillité. La Cour confirme aujourd'hui la reprise de ce procès pour établir la lumière sur la gestion de ce projet qui a englouti plusieurs millions de dollars américains dont est accusé Matata Ponyo et ses présumés complices. Justice toujours, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a adressé hier une réquisition au directeur général du Bureau technique de contrôle, BTC, sur deux faits. D'abord, l'ouverture d'une instruction judiciaire dans la cause relative à l'installation des forages et à la construction des stations mobiles de traitement d'eau pour 100 localités en RDC par le consortium Stever Construct Cameroun SRL. Puis, il lui demande de s'y rendre au siège du dit consortium et se faire communiquer les adresses où ont été installés ou construits en RDC les ouvrages dont il est question, en évaluer le coût au cas par cas, en commençant par Kinshasa, et en faire un rapport ponctuel au procureur général par ville, site ou province en toute urgence. Province de la Tchopo, les foyers améliorés produits par les 4 micro-entreprises accompagnées par le Centre de recherche forestière internationale grâce à l'appui financier de l'Union européenne sont meilleurs que les brasereaux traditionnels. Cette affirmation ressort des résultats des tests de laboratoire réalisés récemment au Centre d'études et de recherche sur les énergies renouvelables Kitissa Kondé de l'Institut supérieur des techniques appliquées Istandolo. Les travaux de restitution ont eu lieu hier à Kisangani. Jacques Moukonkole nous en parle.
Présidé par le ministre provincial de l'énergie, ces travaux de restitution ont été organisés à l'intention des autorités politico-administratives, des responsables de l'administration publique du secteur de l'énergie, de l'environnement et autres fabricants. Objectif, montrer les performances de ces foyers améliorés produits par les micro-entreprises dans la province de la Tchopo. Les tests des laboratoires à Lissa Kinshasa ont prouvé que ces foyers améliorés offrent plus de sécurité à l'utilisateur, contrairement aux brasero traditionnels. Même la durabilité de ces foyers améliorés est largement supérieure. Ils ont une durée minimum de 2 ans contre 6 mois pour les bras zéro traditionnels. Raison de plus d'abandonner complètement ces vieilles pratiques et opter pour l'utilisation des foyers améliorés, tel que l'explique Michel Siakoma, assistant technique bois énergie du CIFOR.
Nous recommandons aux ménages de protéger la forêt environnante en utilisant les foyers améliorés qui réduisent également les temps et qui réduisent la coupe abusive des bois.
Ces foyers améliorés sont accompagnés par le CIFOR à travers son programme de contribution à l'amélioration de l'efficacité énergétique des ménages. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes au Kenya. Le chef de l'armée kenyane, le général Francis Omondi, a été tué hier dans le crash d'un hélicoptère. 9 autres responsables militaires ont aussi perdu la vie dans cet accident. L'hélicoptère s'est écrasé à environ 400 km au nord-ouest de la capitale Nairobi. L'annonce officielle a été faite par le président William Ruto. L'armée de l'air kenyane a dépêché une équipe d'enquêteurs pour déterminer les causes de l'accident et 3 jours de deuil sont décrétés à partir de ce vendredi.
L'invité.
La Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO, et l'Observatoire de la dette publique, ODEP, demandent au ministère du Développement rural des explications. C'est au sujet du contrat qu'il a signé le 31 mai 2022 avec le consortium d'entreprises Stever Construct Sotrod Water, contrat pour installer 1000 stations d'eau et des lampadaires dans plusieurs localités de la RDC. Mais le taux de réalisation est jugé très faible alors que les entreprises ont empoché 80 millions, c'est plein la l'ICOCO et l'ODEP. Pour en parler, nous recevons Ernest Mpararo, président de la l'ICOCO. Il est avec Daniel Tambinzoni.
Ernest Pararo, bonjour.
Bonjour.
Vous demandez un peu plus de lumière à l'hôtel de ville qui avait signé un contrat avec un consortium d'entrepreneurs pour installer 1000 forages et de dispositifs solaires à Kinshasa. Qu'est-ce que vous voulez savoir justement?
Effectivement, comme vous le savez, ce n'est pas l'hôtel de ville, mais c'est le gouvernement à travers le ministère du Développement rural qui a signé un contrat avec une société dénommée Steve Construction pour effectivement installer plus de 1340 forages dans le milieu rural en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté, selon le ministère des Finances lui-même, qui a payé une avance de 80 millions, le taux d'exécution est à 7%. Et le prix des forages pose problème étant donné qu'il n'y a pas eu évaluation indépendante pour savoir le prix de chaque forage. Or, le contrat qui est signé, c'est à peu près 297 000 dollars par forage que nous estimons, nous, avec les collègues et toute la société civile, nous estimons effectivement que ce prix est tellement cher. Deuxièmement, nous ne savons pas par province où est-ce qu'on va installer ces forages. Il serait mieux que le ministère du Développement rural ou le ministère des Finances ou l'entreprise qui a bénéficié de ce contrat puisse publier la liste des sites où on va installer les forages pour que les citoyens puissent faire les suivis.
Donc, il n'y a pas une cartographie claire des endroits où seront installées ces infrastructures.
Parce que jusqu'à présent, nous avions à Kinshasa, terre jaune, on ne sait pas là où ça se trouve. Nous ne voyons pas, il fallait qu'on publie en province pour que les collègues qui sont en province et les citoyens puissent faire les suivis. Si on construit mal, les gens peuvent adresser des plaintes auprès des autorités afin que la société puisse réaménager la construction. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous ne connaissons pas, alors que les bénéficiaires sont les citoyens. Et s'il y a des pratiques de détournement ou de corruption, il faudrait que, effectivement, les cours et tribunaux se saisissent pour punir ou sanctionner les coupables.
Mais ce contrat, je pense, comme vous l'avez dit dans le communiqué, a été signé l'un au mois de mai de l'année 2022 et l'autre même en 2021. Pourquoi avoir attendu beaucoup de temps comme ça pour le dire aujourd'hui, pour le dénoncer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous craignez?
Effectivement, tu sais, lorsqu'on signe le contrat, ce n'est pas le même jour qu'on va commencer à travailler. Mais effectivement, comme vous le dites, le taux d'exécution pour le montant qui a été payé de 80 millions, on devrait recevoir à peu près 250 forages. Et pour les lampadaires, on devrait installer plus de 200 lampadaires dans la commune de Kasavubu, Giringiri et Bumbu. Mais qu'est-ce qu'on constate? On a seulement installé une petite partie qui ne représente même pas un tiers des lampadaires sur l'avenue Chaba à Kasavubu. L'avenue Ngiringiri et Bumbu, on n'a pas encore, alors que les sociétés ont reçu de l'argent. Pour les lampadaires, la société a reçu déjà 100% du paiement, et pour les forages, 80 millions représentent déjà plus de 30% du montant total du projet. Nous pensons que le taux d'exécution est tellement faible et cela suscite effectivement des interrogations.
Mais si vous passez, par exemple, dans la commune de Bumbu, sur l'avenue Landou, partant de l'avenue 24 jusque sur l'avenue Chaba, il y a quand même des lampadaires qui sont placés là. Ce n'est pas dans le cadre de ce marché que vous décrivez aujourd'hui, c'est une autre entreprise qui a placé ça, les lampadaires solaires qui éclairent la nuit.
Je pense oui, ce n'est pas dans le cadre du projet, étant donné que les lampadaires qui sont là existent depuis avant 2021.
Mais qu'est-ce que vous demandez à l'entreprise qui a déjà empoché l'argent du trésor public, l'argent du contribuable congolais?
Et je pense qu'on devrait leur ravir les contrats et l'attribuer à une autre société qui va continuer avec le travail et que cette entreprise rembourse l'argent déjà empoché. Je sais qu'actuellement, il y a des enquêtes judiciaires et si l'entreprise a empoché l'argent mais n'a pas fait le travail, il doit être sanctionné et être blacklisté en RDC pour qu'il ne puisse plus bénéficier d'autres contrats à l'avenir.
Ernest Mpararo, merci.
Voilà, notre invité, le président de la Ligue de lutte contre la corruption, Likoko, répondait aux questions de Daniel Tambinzoni. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.